Les manifestes qui ont changé le monde. Gérard Courtois, Didier Lesky.
Depuis deux siècles, ils ont fait date et ils ont fait école. Utopiques et prosélytes, didactiques ou dogmatiques, des manifestes ont scandé l'histoire des mouvements politiques et artistiques. Textes de rupture, portés par les avant-gardes du moment, ils ont ouvert des brèches, inventé des modernités et donné raison à Karl Marx. Les idées peuvent être des forces matérielles capables de changer le monde. Aujourd'hui, au-dessus de la mêlée.
Voilà un texte au destin singulier, mais qui va profondément marquer les esprits pendant et après la Première Guerre mondiale. Nous sommes en septembre 1914. La guerre fait rage depuis 6 semaines. Les armées allemandes ont envahi la Belgique, puis la France. Au début du mois, la bataille de la Marne a permis aux armées françaises de repousser cette première offensive qui menaçait d'encercler Paris. Déjà, les morts se comptent par dizaines de milliers, 27 000 pour la seule journée du 22 août, du seul côté français. Le 15 septembre, l'écrivain Romain Rolland publie dans le journal de Genève un texte d'une vingtaine de pages. Il est titré « Au-dessus de la mêlée ». Le titre est trompeur, car c'est un cri d'indignation devant le déchaînement de haine qui submerge l'Europe. Un manifeste cinglant contre les autorités intellectuelles et spirituelles qui ont plongé aveuglément dans cette, je cite, « fureur meurtrière ». Dans le climat d'union sacrée qui s'est imposé dès le début de la guerre, Romain Rolland fait figure de pestiféré, voire de traître à la patrie. Peu à peu, pourtant, alors que la grande boucherie s'éternise, au-dessus de la mêlée assure à son auteur une immense autorité morale. D'ailleurs, dès le conflit terminé, il devient la figure de proue du courant pacifiste qui va s'imposer dans la France de l'entre-deux-guerres et au-delà de la France, en Europe. Fidèle à sa protestation initiale, il multiplie les interventions, les manifestes, les engagements en faveur de la paix. Il mobilise les grands esprits de son temps, d'Einstein à Stefan Zweig, son ami, de Bertrand Russell à Sigmund Freud et bien d'autres. Face à la menace hitlérienne, il n'hésite pas, dans les années 30, à mettre son prestige au service de l'URSS stalinienne, sans parvenir, on le sait, à enrayer la montée des périls. Retiré dans sa maison de Vézelay, Romain Rolland meurt en décembre 1944. Sa mémoire s'est effacée, mais face à d'autres guerres, d'autres enjeux et d'autres acteurs, le combat pacifiste n'a rien perdu de son actualité, comme un hommage lointain à « Au-dessus de la mêlée ». Pour nous éclairer sur l'engagement de Romain Rolland et sur la trace qu'il a laissée, nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Prochasson et Galit Haddad. Bonjour à vous. Christophe Prochasson, vous êtes historien, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont « Les intellectuels, le socialisme et la guerre 1900-1938 » et responsable d'une édition de « Au-dessus de la mêlée » que vous avez préfacée dans la petite bibliothèque Payot. Et Galit Haddad, vous-même, vous êtes également historienne, chercheuse à l'École des hautes études en sciences sociales et à l'Université de Tel Aviv, membre du conseil scientifique de l'historial de la Grande Guerre de Péronne, et vous avez notamment consacré un ouvrage à « Ceux qui protestaient », je cite le titre, 1914-1919. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Galit Haddad, bonjour. Dites-nous d'abord qui était Romain Rolland, dont la mémoire, comme l'a dit Gérard Courtois, s'est un peu effacée.
Oui, en fait, l'écrivain Romain Rolland, il est toujours resté associé à la publication d'Au-dessus de la mêlée. D'abord l'article et puis le recueil publié en 1915. Et c'est malgré les nombreux écrits avant la guerre, comme les drames historiques et philosophiques, surtout son roman Fleuve, Jean-Christophe, et sa vaste contribution littéraire est tombée dans l'oubli. De 1914 à sa mort en 1944, il n'était plus juste un écrivain, mais c'était l'écrivain d'au-dessus de la mêlée. Et toujours, lorsqu'on parle de Rolland aujourd'hui, c'est pour évoquer la protestation de 14-18, contre la guerre de 14-18. Romain Rolland, il a commencé sa formation littéraire à l'école normale supérieure. Il devient agrégé en histoire en 1889. Puis il commence à enseigner dans les lycées. Plus tard, il obtient son doctorat des lettres. Et à partir de 1904, il enseigne à la Sorbonne, puis il enseigne dans d'autres endroits.
Mais pardon, il enseigne l'histoire de la musique, hein, de mémoire.
Histoire de la musique.
Histoire de la musique, c'est ça.
Histoire de la musique, de l'art. Et puis, cette période, c'est la période, n'oublions pas, de l'affaire Dreyfus. Il a 32 ans, il est écrivain, il est peu connu, sans autorité ni influence dans le champ intellectuel. Mais en fait, Romain Rolland, il ne s'est jamais engagé dans aucun moment dans une action politique. Il est resté, comme il dit, un franc-tireur tout au long de sa vie afin de garder son indépendance de pensée. Et le tournant de sa carrière littéraire se produit avec le roman Jean-Christophe, qu'il a commencé à publier, ce sont des volumes, en 1904 jusqu'à 1912, en feuilleton d'abord, dans la revue Cahiers de la Quinzaine chez Peggy. Et puis, à partir de 1905, aux éditions Ohlendorf. Et l'immense succès, ici c'est un point tournant quoi qu'il en soit, c'est l'immense succès populaire de cette œuvre, lui vaut une reconnaissance internationale, un prestige, beaucoup de prix littéraires comme La vie heureuse, grand prix littéraire de l'Académie française en 1913, et plus tard, en 1915, on le sait, le prix Nobel de littérature.
Mais Christophe Fauchasson, il est connu ou il est inconnu quand il fait ça? Il est socialiste ou il n'est pas socialiste? Il est pacifiste ou il n'est pas pacifiste?
Eh bien, Romain Rolland, vous aurez répondu qu'il n'est rien de tout cela, puisque comme vient de le dire Galita Dad, avec beaucoup de pertinence, c'est un homme qui a toujours voulu maintenir une indépendance d'esprit. C'est son grand mot, d'ailleurs, l'esprit, au-dessus des partis. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il n'a pas voulu s'engager dans le combat de Dreyfusard, alors même qu'il était dans un environnement d'intellectuel plutôt Dreyfusard, a commencé d'ailleurs par sa propre femme de l'époque, puisqu'il avait épousé la fille du mathématicien Dreyfusard, Michel Bréal, et qu'il a toujours reconnu que cette partition de la sphère intellectuelle entre anti-Dreyfusard et Dreyfusard ne lui convenait pas, et qu'il y trouvait, pour en employer un mot aussi auquel il a accordé beaucoup d'importance, trop de haine qui divisait les uns et les autres. Alors, il n'est ni anti-Dreyfusard, il n'est pas non plus Dreyfusard, il n'est pas socialiste encarté, mais en même temps, il partage évidemment des valeurs dans lesquelles les socialistes eux-mêmes peuvent se reconnaître. Donc c'est un personnage véritablement atypique. Ce n'est pas un intellectuel de la trempe, que sais-je, on vient de citer Peggy, dont il a été l'ami avant de se fâcher un petit peu avec lui, mais qui a été son ami, son éditeur et son modèle d'une certaine façon, auquel d'ailleurs il consacrera une biographie enfin qui a été publiée de façon posthume à la fin de sa vie. En revanche, il y a une chose peut-être qui le caractérise, c'est son goût pour les petits milieux. Et on le trouve avec une influence certaine, notamment dans les années 10, auprès d'un certain nombre de jeunes intellectuels, d'écrivains, et non pas d'universitaires.
Ce qu'on appelle le courant vitaliste,
voilà,
c'est ça?
Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce courant très méconnu? Oui. Ce sont des gens qui ne sont pas passés à la postérité, mais qui ont une grande importance à ce moment-là, comme Jean-Richard Bloch.
Et une grande importance à ce moment-là, et parce qu'ils vont irriguer notamment ce texte au-dessus de la mêlée.
Exactement. Et qui vont constituer, pendant la Première Guerre mondiale, pas tous d'ailleurs, parce que certains vont se diviser, certains engageant toute leur énergie dans la guerre et d'autres la combattant en quelque sorte. Mais ce noyau d'intellectuels vitalistes, comme vous les appelez, se retrouve autour de petites revues comme L'Effort libre, qui a été une revue créée par l'écrivain Jean-Richard Bloch, qui a été un des très grand proche, un ami très proche de Romain Rolland, mais aussi d'autres un peu moins connus, comme je citais Léon Bazalgette ou des musiciens, des peintres qui se trouvent dans ce milieu de petites revues et qui vont constituer une petite communauté intellectuelle qui se retrouvera dans le pacifisme de Romain Rolland pendant la Première Guerre mondiale.
Mais pourquoi les appelle-t-on vitalistes ?
Alors, on les appelle, c'est une qualification qu'on pourrait discuter parce que, alors pas au sens, j'allais dire dogmatique du terme, au sens où on entend le vitalisme philosophique, mais tout simplement parce qu'ils font de la vie, le moteur d'une vie un peu essentialisée, idéalisée, le moteur de l'existence et de leur pensée politique. Ce sont des gens de gauche, entre le socialisme et l'anarchisme, je dirais, et c'est dans ce milieu-là, en quelque sorte, que va se trouver bien Romain Rolland. Et ce sont eux qui le soutiendront au moment où il sera le plus détesté.
Alors Galita Dad, qu'est-ce qu'il y a dans ce texte au-dessus de la mêlée dont après Henri Massis, cet écrivain d'extrême droite, dira qu'il est le début du défaitisme intellectuel, le virus du défaitisme?
En fait, on ne peut pas dissocier l'image de Romain Rolland avant la publication d'Au-dessus de la mêlée, de toute la critique contre lui. Son image, au moment où il prend la plume en 1914, est indissociable de son ouvrage de Jean-Christophe, sa perspective de l'Europe, et sa sympathie pour l'Allemagne.
Et sa sympathie et en même temps sa déception des intellectuels allemands.
Oui, mais d'abord, c'était, on voit bien dans le roman, la sympathie pour la culture française, c'est une admiration. Et lorsqu'il prend la parole, et voilà, on dit, c'est la preuve, c'est un germanophile, il admire tellement l'Allemagne qu'il n'est plus sensible à la tragédie actuelle. Et à la France.
Il admire la culture allemande, oui. Mais pas le militarisme allemand quand même.
Non, on parle avant la guerre. On parle de la période d'avant la guerre.
Excusez-moi, je vous interromps, mais rappelez dans le roman que vous évoquez, évidemment, qui est fondateur d'une certaine façon, Jean-Christophe. C'est l'histoire, Jean-Christophe Kraft, c'est l'histoire d'un musicien allemand. Et je pense que là se retrouvent les deux grandes passions de Romain Rolland. Alors, c'est un homme qui est fasciné par la culture allemande, hein, qui le restera, mais il développe moins avant la guerre sans doute qu'après ce que beaucoup d'intellectuels français à l'époque ont développé, une théorie qu'on appelle la théorie des deux Allemagnes. C'est-à-dire tout se passe comme s'il y avait deux Allemagnes, la bonne et la mauvaise, celle des Lumières, hein, l'Allemagne de Goethe, pour le dire rapidement, dont Rolland se sent l'héritier, comme beaucoup d'intellectuels français qui, à l'époque, font le voyage en Allemagne parce qu'ils y trouvent les sources de leur culture. Et puis la mauvaise Allemagne, la pan-germaniste et la prussienne, à vrai dire, celle qui est militariste.
Mais alors, Galita Dad, pour venir au contenu de ce texte, on pourrait s'attendre, vu ce qu'a été Romain Rolland ensuite, à un plaidoyer contre la guerre. Et en même temps, ce n'est pas un texte antimilitariste, au sens où c'est d'abord un hommage extrêmement vigoureux aux soldats français, aux jeunes soldats français.
Ouais. Avant, il faut aussi prendre en considération qu'avant, Au-dessus de la mêlée, Romain Rolland il a publié deux textes qui sont contre les intellectuels allemands. C'est là où il critique la position des intellectuels allemands qui ont entraîné dans l'esprit belliqueux de nationaliste de l'Empire prussien.
Et il écrit même, je vous arrête un instant, il écrit même « L'Allemagne n'aura pas eu d'ennemis plus funestes que ses intellectuels ».
Oui.
C'est quand même très fort.
Oui, oui. Le texte auquel Galita Dad fait allusion est un texte qui s'adresse, c'est une lettre à Gerhard Hauptmann, qui s'était un intellectuel allemand, qui s'était engagé avec ardeur dans le combat contre la France. Et évidemment, cette déception va se renforcer, puisque quelques jours après, au mois d'octobre, les intellectuels allemands vont signer ce fameux, c'est un autre manifeste sur lequel on aurait pu s'étendre aussi, un manifeste dit des 93 intellectuel allemand qui commence par la même formule « Es ist nicht wahr », ce n'est pas vrai que les intellectuels sont ainsi, ce n'est pas vrai que l'Allemagne fait ceci, fait cela, etc. Évidemment, cette image déplorable aux yeux des Français en guerre qui sont en pleine bataille de la Marne, à ce moment-là, il faut le rappeler, vous l'avez rappelé Gérard Courtois, le nombre considérable de morts durant les mois de septembre et octobre de morts français. Évidemment, c'est inaudible de ce genre de choses et contribue à dégrader l'image des intellectuels allemands.
Mais je reviens quand même sur cette tonalité d'ouverture du texte qui est quand même un hommage. C'est d'abord un hommage aux soldats français, mais c'est pour mieux dénoncer ceux qui les ont entraînés dans le conflit.
Exactement. D'abord, par rapport à la bataille de la Marne, c'est aussi un point tournant. Et Romain Rolland, il a écrit le texte pendant la bataille de la Marne, mais il est diffusé après, lorsque c'est déjà sûr qu'il n'y a pas de risque.
Que Paris soit
pris. Voilà. Et ce n'est pas uniquement lui. Tout le pacifisme de 14-18, tous les milieux pacifistes de 14-18, les milieux ouvrières, ils ont commencé à diffuser leurs protestations après la bataille de la Marne. Et la première partie de ce texte, il est basé sur le consensus, sur le consentement, sur les valeurs admises, et notamment sur la question de devoir. Il commence la première partie par un appel aux jeunesses héroïques du monde, et où Rolland il témoigne son admiration et son soutien moral à tous ceux que la patrie a appelé à combattre.
Ce qu'il appelle une cause sacrée.
Voilà, et ce n'est pas uniquement les Français. Il fait cet appel à tous les jeunes parce que c'est une guerre fratricide. Vous tous, jeunes hommes de toutes les nations, qu'un commun idéal met tragiquement aux prises, jeunes frères ennemis. Et ensuite, il passe aux combattants français qui sont comme le modèle, les héros qui ont combattu pour la Révolution. Et il admire leur sacrifice. Et en même temps, il y a un moment où il déclare que même vaincu, une telle mort aurait été la plus belle qu'une race puisse rêver.
C'est une sorte de pacifiste patriote, Christophe Rochasson ?
Oui, tout à fait. Oui, on peut le dire. N'oubliez pas que c'est un ami de Peggy. Et lorsque il écrit ce texte, lorsque le texte est réédité, puisqu'il y a eu l'édition dans le journal de Genève, donc du 15 septembre, et puis le texte est réédité à deux fois d'ailleurs ultérieurement. Mais dans la réédition du texte de 1915, il y a une petite note qui dit « J'écris, donc au-dessus de la mêlée, l'article du journal de Genève, je l'écris au moment où j'apprenais la mort du lieutenant Peggy ». Et donc on voit bien ce qu'il a en tête dans cet hommage rendu aux soldats français qui meurent pour leur pays. C'est cette image de Peggy et Rolland est tout autant un internationaliste, c'est un de ses grands mots. Il dit d'ailleurs, dans quelques mois après la guerre, il faut d'abord être internationaliste, après on verra si on est socialiste. Hein. Mais d'abord être internationaliste. Cet internationalisme n'est pas incompatible avec une conception presque charnelle, je dirais, la nation est un mot périmé, enfin pour à ce moment-là à gauche, mais oui, de la patrie. Vous avez raison d'utiliser ce mot. Il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux. Et c'est vrai que le début du texte est tout à fait frappant. Ouais. On se dit, mais qui écrit ? Est-ce que c'est ça le Romain Rolland pacifiste qui a irrigué tout le pacifisme d'entre-deux-guerres, ce pur parmi les purs, disaient les pacifistes, alors que on a l'impression presque que c'est un texte, je ne dirais pas maurassien, mais qui est ancré en tout cas dans une conception assez traditionnelle de la patrie, voire de la nation.
Bah, néanmoins, très vite, ça tourne au réquisitoire. Au réquisitoire contre les fauteurs ou les auteurs de la guerre.
Oui, à ceci près que C'est, oui, et il faut le mettre dans les circonstances que nous évoquions. C'est-à-dire supposer qu'on puisse comprendre l'Allemagne à ce moment-là est tout simplement inaudible, intolérable. Mais malgré tout, vous remarquez que dans le débat qui s'annonce sur les responsabilités de la guerre, il ne met pas la France parmi les responsables du conflit, du tout. Hein. Il y a trois grands responsables, dit-il, dans Au-dessus de la mêlée, trois grands responsables qui sont les trois empires, si, même s'ils sont un peu différents. Il y a l'Autriche, il y a la Prusse, l'Empire d'Allemagne, en réalité, et puis, évidemment, l'Empire russe. Ce sont ces trois empires-là qui sont responsables de la guerre et non pas la France. La France n'est jamais mise en cause. Et ça, c'est tout à fait notable par rapport aux lectures et à la mémoire que l'on a eue ultérieurement de ce texte.
Mais alors, Galitadat, quand il dit, par exemple, il s'adresse à ces jeunes soldats à qui il rend hommage, il dit « Vous faites votre devoir, mais d'autres l'ont-ils fait ?» Et qui sont ces autres? Qui sont ces autres qui n'ont pas fait leur devoir?
Oui, là c'est il ouvre pas par cette question, il ouvre son réquisitoire par cette interrogation. Et d'ailleurs, par cette opposition, il insinue en fait l'existence d'un devoir non seulement pour les combattants mais aussi pour l'arrière. Il y a un devoir pour les aînés qui n'a pas été rempli. Et il s'agit de leurs guides moraux, chefs religieux ou laïcs, représentants des églises, dirigeants socialistes, ainsi que les intellectuels. Et dans le texte, il utilise « vous », c'est-à-dire qu'il s'adresse à tous ces coupables, les dirigeants de l'église, les socialistes, les intellectuels.
C'est très cinglant, enfin, c'est très violent. Enfin, violent n'est peut-être pas le mot, mais cinglant en tout cas.
Et oui, il les accuse d'être laissés emporter par un enthousiasme nationaliste. Ils ont abdiqué leur idéal de fraternité. Les socialistes, ils ont abdiqué à l'idéal de fraternité, de prolétariat mondial, y compris leurs journaux, l'Humanité. Tous sont mobilisés pour soutenir la cause de la guerre. Les dirigeants de l'Église qui prêchent l'Évangile mais sont accusés d'avoir trahi les valeurs chrétiennes. Et enfin, ce qui touche le plus Romain Rolland, c'est l'abdication de ses pères qui n'ont pas rempli leurs devoirs. Et lui, par contre, indirectement ou implicitement, il insinue que lui, il remplit son devoir. Il n'a pas le choix. Il le fait, il est seul, mais il remplit son devoir.
Oui, c'est la trahison des clercs que Julien Banda va après fustiger. Mais alors, dans cet esprit pacifiste, il y a quelque chose qui va se radicaliser chez lui à partir de ce constat. D'où son évolution politique, Christophe Prochasson?
Écoutez, il faut bien comprendre que au moment du déclenchement de la guerre, c'est un effondrement complet qui se produit chez tous ces intellectuels qui avaient évidemment combattu, et on parlait du petit milieu vitaliste tout à l'heure, hein, qui sont radicalement pacifistes déjà avant la guerre. Et tout d'un coup, cette catastrophe qui arrive est pour eux totalement accablante. Bon. Et il faut reconnaître que cet effondrement lui conduit à un certain nombre d'injustices, parce que s'en prendre aux socialistes comme ceux qui seraient responsables de la guerre en France, c'est tout de même un peu injuste, et c'est surtout vite oublier la mémoire de Jaurès. Le moment de l'assassinat de Jaurès a été un moment terrible pour Rolland aussi.
Oui. Hein. Quelques semaines avant.
Absolument. Quelques semaines avant, il faut se souvenir, le 31 juillet 1914, lorsque Rolland apprend l'assassinat de Jaurès, il comprend que ça y est, c'est fichu. Jaurès, avec lequel d'ailleurs il avait ils ne sont pas beaucoup rencontrés, je ne sais même pas d'ailleurs s'ils se sont rencontrés, mais enfin, lui, ce qu'il a écrit sur Jaurès était mitigé. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un grand homme, bienveillant, bon, etc., mais en même temps opportuniste. Donc il était assez sévère. Mais il sent bien que, évidemment, c'est quelque chose qui s'engage. Et donc là, il y a un effondrement qui le conduit à cette. À à ces injustices-là et à mettre tout le monde dans le même panier, ouais. alors même que certains se sont donnés à fond pour se battre contre le déclenchement de la guerre.
Alors il va devenir, Stefan Zweig va dire, s'il devient une conscience de l'Europe, et on va lui attribuer en 1916, pour l'année 1915, le prix Nobel de littérature.
Oui, mais cette image de conscience de l'Europe, il faut rappeler, je reviens à nouveau, en fait, c'est grâce
à ce texte.
Au roman aussi, d'abord au roman Jean-Christophe, c'est là où il y a, c'est peut-être pas conscience de l'Europe, une vision de l'Europe dans Jean-Christophe.
Une communauté intellectuelle européenne. Quelque
l'esprit,
chose comme ça.
Ce qu'il appelle
oui,
vraiment l'esprit.
Et cette question, aujourd'hui, ça va de soi, mais comment en fait incarner l'âme européenne? Qu'est-ce qu'on a en commun? Et là, dans cet ouvrage-là, il parle de la patrie, c'est l'Europe. Et la petite patrie, c'est la France. Donc, tout commence par là. Et ensuite, évidemment, avec au-dessus de la mêlée et les textes qu'il a écrits après, il devient en fait, oui, c'est l'image, la conscience de l'Europe, même si plus tard, il va critiquer l'Europe et la civilisation européenne en 1917. Pour sa politique dans les colonies.
On va y venir, mais quand même, moi je voudrais revenir à la manière dont ce texte a été accueilli. Alors Didier l'a évoqué tout à l'heure, mais en parlant des accusations, mais c'est un véritable pestiféré à ce moment-là. C'est un traître à la patrie. Oui. Alors, comment est-ce que les choses évoluent
Alors d'abord, il faut rappeler...
Le père du défaitisme intellectuel,
oui,
dira-t-on.
Il faut rappeler que sa situation biographique, si j'ose dire, ne favorise pas la réception du texte, puisque trop âgé pour être mobilisé, Romain Rolland est en Suisse lorsque la guerre est déclarée et qu'il reste en Suisse et qu'il publie ce texte de Suisse.
Quasiment un déserteur.
Exactement. Et effectivement...
Mais la Suisse qui est l'épicentre des anti-guerres, puisqu'on va avoir en Suisse la conférence de Zimmerwald,
bien sûr. Et la Suisse qui va devenir l'espèce d'un lieu de pèlerinage pour les militants pacifistes du monde entier. Enfin, du monde entier. Oui, du monde entier d'ailleurs, mais surtout d'Europe, évidemment.
La dissidence pacifiste.
Absolument, qui viendront en Suisse. Donc, évidemment, pour la réception du texte, un déserteur, comme vous le dites, Gérard Courtois...
C'est une image.
Entre guillemets, qui écrit des choses inaudibles, au sens où on ne peut pas donner la moindre bénédiction, si j'ose dire, à son propos. Tout cela rend Romain Rolland l'homme à abattre. Et il est l'homme à abattre, d'abord par les milieux nationalistes, mais bien au-delà, en réalité. Et il sera dans une situation dont il va souffrir beaucoup et se plaindre beaucoup, de solitude totale et de haine. Il a failli appeler « Au-dessus de la mêlée », un des titres possibles, qui était « Au-dessus de la haine » ou « Contre la haine ». Et la haine est le grand mot qui va l'habiter et dont il va évidemment faire une thématique très forte dans tous ses écrits.
France Culture. Les manifestes qui ont changé le monde. Gérard Courtois, Didier Lesky.
Alors, après cet épisode de haine contre lui, puisque vous avez parlé de haine, il va progressivement acquérir une audience de plus en plus forte, et en particulier dans ce qu'on va appeler la mouvance pacifiste des anciens combattants, de tous ceux qui auront été meurtris dans leur chair par la guerre, jusqu'à se radicaliser en rejoignant les courants communistes, Christophe Rochesson.
Alors, oui, c'est une histoire, là encore une fois, beaucoup plus complexe que ce qu'on a laissé entendre, et toujours qui illustre fort bien ce positionnement compliqué de Romain Rolland, hein, ni Dreyfusard, ni anti-Dreyfusard, par rapport au communisme, qui surgit évidemment au début des années 20, là encore, sa position va être complexe. Il est parallèlement situé dans ce dans cette question, avec un autre écrivain, Henri Barbus, qui a créé une petite revue pendant la guerre en 1917, Clarté, et avec Barbus, il va se retrouver en quelque sorte sur le même combat. À ceci près que Romain Rolland, lui, va tenir à son indépendance par rapport au Parti communiste, par rapport même à l'idéologie communiste d'une certaine façon, car, encore une fois, il veut mettre en avant l'idéal internationaliste, l'idéal de paix, qui doit l'emporter sous toute autre espèce d'idéal. Et par ailleurs, il a, il faut bien le dire, une grande méfiance à l'égard de toutes les institutions qui ont trahi pendant la Première Guerre mondiale, comme on le rappelait à l'instant. Donc, dans un premier temps, le rapprochement avec le communisme est très prudent et très, je dirais, subtil et n'est pas du tout de la même nature que celui qui a affecté les relations de Barbus avec le communisme.
Et de la manière dont évoluera ensuite l'attitude de Romain Rolland à l'égard de l'URSS. Mais avant d'en venir là... Avant d'en venir là, je voulais évoquer, mais peut-être Galit Haddad, vous pouvez nous éclairer sur ce point, parce qu'il y a deux, au fond, il y a deux courants, au fond, il y a trois courants pacifistes à partir de 1919. Il y a ce que j'appellerais un pacifisme idéaliste, un peu celui de Romain Rolland précisément, qui l'incarne. Il y a ce pacifisme révolutionnaire qui s'incarne à travers la patrie des soviets naissante. Et puis il y a un troisième, il me semble, un troisième courant qui est ce qu'on a appelé le pacifisme juridique, qui a pris une importance très grande dans les années 1920, dont Aristide Briand est un peu la figure emblématique et tutélaire, qui était de construire la paix à travers des instruments juridiques, la Société des Nations, l'arbitrage, etc., qui va conduire à l'accord entre Briand et Stresemann, le ministre allemand des Affaires étrangères, au pacte de Locarno, au pacte Briand-Kellogg, Kellogg étant le ministre américain des Affaires étrangères, qui interdit la guerre. On est en 1928. 28. Donc en 1928, on a tout ce courant. Comment Romain Rolland se situe par rapport à ce...
Galit Haddad.
En fait, on voit bien l'évolution de Romain Rolland et l'évolution de pacifisme. Le pacifisme, ce n'est pas une notion abstraite. Il est ancré dans les événements qui se passent dans les années 20 et notamment dans les années 30, à la sortie de guerre. Il est encore dans l'esprit de ces cinq dernières années et avec le manifeste pour l'indépendance de l'esprit. On est un peu encore au-dessous de la mêlée.
On va y venir, c'est en 1919 ça,
oui,
hein, le manifeste 19, pour l'indépendance de l'esprit.
Où il s'adresse aux intellectuels.
Mais par rapport à tout ce mouvement diplomatique, politique, est-ce qu'il se situe par rapport à ça? On a l'impression qu'il est à l'écart de ça.
Romain Rolland, dès le début, en fait, il refuse de s'associer dans des organisations, dans des mouvements, tout ce qui est politique. Là, il s'éloigne de tout ce qui est politique, mais depuis l'affaire Dreyfus et jusqu'à la fin de sa vie.
Mais en 1932, il va participer du mouvement Amsterdam Pleyel, enfin.
Oui,
Christophe Rojasson.
Oui, bien sûr, il est une des grandes figures de ce congrès pacifiste de 32 Amsterdam, qui est sous l'égide du communisme, mais
pas l'action. Pardon, pas l'action politique.
Voilà, il a une grande méfiance pour l'action politique. Il oppose toujours, encore une fois, l'esprit et l'action. D'ailleurs, au moment où Barbus s'engage dans le Parti communiste, hein, c'est encore une fois son alter ego, dans ce moment-là en tout cas, il lui rêve d'une internationale intellectuelle. pas d'une internationale comme celle que venait de créer Lénine en mars 1919, hein, le troisième du nom, hein, mais d'une internationale intellectuelle qui aurait ses congrès, etc. Bon, le projet va échouer. Donc, on est là sur un registre très, très mm-hmm. particulier qui fait de Romain Rolland, moi, j'ai toujours, pour moi, dans mon esprit, c'est un dissident. Vous voyez, c'est pas un intellectuel engagé au sens où on l'entend notamment à partir du communisme, hein, ouais. où des intellectuels se mettent au service d'un parti ou au service d'une organisation syndicale, par exemple. Non, c'est un dissident, c'est-à-dire quelqu'un qui est commandé, d'ailleurs c'est ce qu'il théorise, par la recherche de la vérité. Et il sait très bien que lorsqu'on s'engage dans un parti ou lorsqu'on est au service d'un gouvernement, on ne peut plus être au service de la vérité. Il y a quelque chose d'incompatible de ce point de vue-là. Et donc, il reste, comme vous le décrivez, Galit Haddad, toujours. D'ailleurs, c'est assez amusant, si vous me permettez cette petite allusion, enfin, qui, biographique. Il a fait un mémoire, enfin, une étude très intéressante d'historien, parce qu'il est historien, vous le rappelez, pendant les guerres, qui portait sur les guerres de religion. Et qu'est-ce qu'il étudie dans la guerre de religion? Le cas du curé de Provins qui essayait de faire dialoguer les protestants et les catholiques. C'est tout de même très intéressant, cette constance à essayer d'aller chercher, alors même que les gens se haïssent, se combattent, celui qui est ailleurs ou qui va essayer de les faire converser.
Je reviens un cran en arrière, là. On a fait un grand pas en avant.
Excusez-moi, c'est de ma faute.
Non. vers les années 30, mais quand même, revenons quand même sur le lendemain de guerre. Enfin, on dit pacifisme, mais ça représentait quoi dans en France en 1920 et dans les années 20, ça représentait quoi? C'était très enraciné, il y avait en même temps un patriotisme exacerbé par la guerre. Donc quels étaient les canaux de diffusion de ce pacifisme et par exemple de l'état d'esprit de cette déclaration de l'indépendance de l'esprit que Romain Rolland publie en 1919 avec des grands noms, hein, excusez du peu, Einstein, Bertrand mm-hmm. Russell, Stefan Zweig, Rabindranath Tagore, Benedetto Croce, Jules Romain, etc. Enfin, voilà, quel est l'enracinement au fond dans le dans la France de l'époque, de ce courant pacifiste.
Galit Haddad.
Après l'hécatombe mondiale, on sait très bien que l'adhésion au pacifisme, ce n'était pas difficile. Tous les mouvements des anciens combattants, les instituteurs, il y a une vague du refus de guerre, mais une vague du refus total.
Plus jamais ça.
Plus jamais ça, à n'importe quel prix, pas de la guerre. Mieux de régler
tout sauf la guerre.
Voilà. Et ça explique tout ce pacifisme juridique par le droit d'essayer de trouver des compromis juste pour ne pas arriver à une situation de guerre. Ensuite, si on essaye de comprendre la nature de ce pacifisme, ça suffit d'aller suivre les numéros de la revue Europe. On voit très bien comment Romain Rolland évolue.
La revue Europe qui est créée par Romain Rolland.
Oui, qui est créée par Romain Rolland. 1923. Mais l'objectif, c'est un objectif littéraire. Mm-hmm. C'est exprimer la fraternité humaine à travers la littérature. Là aussi, et il a dit lui-même, il n'y a pas une place pour la politique. Pas du tout. Et c'était une revue qui a rassemblé des écrivains, des intellectuels du monde entier. C'est international. Et peu à peu, là, on voit, c'est-à-dire que dès qu'il y a une menace, le discours pacifiste, il ne peut pas rester identique. Parler de pacifisme lorsqu'il n'y a pas de guerre, c'est une chose, mais parler de pacifisme lorsque il y a une menace de guerre, là c'est plus compliqué puisqu'il faut prendre une position. Et c'est là où on voit, pendant les années 30, la fracture, l'Europe ne pouvait plus réunir toutes ces fractions pacifistes, socialistes différentes. Et là, il y avait une fracture. Le pacifisme, il est devant un fait.
une fracture entre des pacifistes qu'on va qualifier d'intégraux, qui restent sur plus jamais ça, et des gens qui vont prendre un peu la mesure, un peu ou beaucoup, la mesure des périls nouveaux qui émergent. C'est ça la ligne de clivage.
C'est ça. Et à partir de 1934 jusqu'à
la Seconde Guerre mondiale, ouais, on a ce pacifisme qui traverse beaucoup les instituteurs, qui fait que les socialistes plusieurs fois refusent de voter les crédits de guerre pour la défense nationale à l'Assemblée. Christophe Rochesson.
Oui, là la chronologie est importante parce que il y a en effet le pacifisme des années 20 qui est un pacifisme quoi qu'il en coûte, d'une certaine façon, c'est-à-dire radical.
Expression un peu anachronique.
Voilà, oui, je le fais à dessein. C'est effectivement quelque chose, ce qu'on a appelé l'esprit de Locarno, du nom de la grande conférence des années 20 qui essaye de refaire dialoguer les nations européennes entre elles. Bon, donc ça c'est très clair et on voit bien comment, tout en gardant son indépendance, Romain Rolland est là-dedans et ça réunit en effet des gens avec des sensibilités politiques très différentes. Il y a un nom qu'il faut évidemment évoquer à ce moment-là, qui est celui d'Alain, du philosophe Alain, qui entraîne derrière lui toute une tendance d'intellectuels, notamment une figure importante, Michel Alexandre, qui est un de ces philosophes pacifistes qui ont beaucoup compté dans l'entre-deux-guerres, mais qui vont jusqu'au bout et qui iront jusqu'au bout. Bon, et puis il y a les années 30, il y a ce qui se passe à partir de 32, 33, et évidemment
de la victoire du nazisme en Allemagne.
Et alors là, je pense qu'il y a un autre terme qu'il faut introduire parallèlement au pacifisme, c'est l'antifascisme. Alors l'antifascisme a ses origines bien sûr avant, puisque Mussolini est au pouvoir évidemment déjà depuis presque 10 ans, là il y a quelque chose qui change parmi les pacifistes, et il y a des fractures qui s'opèrent dans le milieu pacifiste, dont Rolland est un exemple, justement. C'est qu'on voit très bien qu'à ce moment-là, donc 31-32, il rompt avec les pacifistes, les autres, pour devenir un authentique antifasciste.
Jusqu'à présider, justement, le comité mondial contre la guerre et le fascisme avec Paul Langevin.
Il y a ce rapprochement, évidemment, à ce moment-là, avec l'Union soviétique. Il y a aussi avec le Parti communiste aussi. Et il y a un épisode aussi biographique qui n'est pas sans compter dans cette affaire-là, qui est son mariage avec Kudacheva, c'est-à-dire une jeune femme qui est d'origine russe, et dont une partie de la famille, ça c'est très important, est encore en URSS.
Je pose une question idiote, mais cette épouse a un lien quelconque avec le Comintern et la Troisième Internationale ?
Alors, vous mettez le doigt sur quelque chose de très discuté parmi les historiennes et les historiens qui traitent de cette question. Il est, oui, plus que probable qu'il y ait un lien. Mais Rolland, de ce point de vue-là, on le voit dans ses écrits privés, dans ses journaux, il écrit en permanence, c'est un polygraphe incroyable, des lettres à tout le monde et des journaux. Il sait très bien ce qui se passe, surtout dans les années 30, au moment, un petit peu plus tard, au moment des procès de Moscou, mais les persécutions qui sont à l'œuvre déjà depuis plusieurs années. Il sait tout cela. Il n'a pas véritablement d'illusion. Il est bien informé. Mais il considère que l'urgence est à l'antifascisme et qu'il faut choisir son camp. Et que désormais, il faut être du côté de l'Union soviétique face à la montée en puissance du nazisme. Alors, bon, à partir de là, oui, il y a vraisemblablement de la manipulation, c'est évident, comme d'ailleurs de nombreux intellectuels français par l'Union soviétique, qui les convient notamment... fameux voyage de 1935,
le congrès des intellectuels,
voilà, où avec tous les amis écrivains, on parlait de Jean-Richard Bloch tout à l'heure, se rendent à ce moment-là en Union soviétique pour participer à ce congrès. Mais il faut tout de même souligner, c'est qu'en dépit de tout cela, en dépit de ce soutien, du fait que Romain Rolland devient ce qu'on va appeler, hein, parce que Trotsky, c'est lui qui avait lancé l'expression, un compagnon de route du Parti communiste, mais ne devient pas communiste, contrairement à un certain nombre de ses intellectuels antifascistes.
Il ne devient pas communiste, mais enfin, il va quand même... Enfin, à la fois, il est lucide, semble-t-il, sur la réalité soviétique de l'époque, mais il assume, semble-t-il, sans trop de difficultés, d'être un compagnon de route.
Il ne dit rien, il ne condamne pas publiquement les procès.
Non seulement il ne condamne pas, mais quand Gide publie son retour du RSS,
il n'aime pas.
Qui est une critique, qui était avec lui au congrès de 1935.
Absolument.
Le papier, l'article de Romain Rolland dans l'Humanité, repris dans la Pravda, est une condamnation cinglante du bouquin de Gide, qu'il traite de puéril, de.
Compagnon de route, en fait.
Il va loin dans le, comment dire, pour être dans la ligne de Moscou.
C'est très complexe, cette histoire de son adhésion.
Toujours chez Romain Rolland, c'est toujours.
Avec la Russie, là, c'est vraiment compliqué. Mais en fait, Romain Rolland, il a tellement admiré la révolution, l'action du peuple russe. Et ce n'est pas. Lui-même, il a dit dans ses écrits privés, ce n'est pas. Un homme que je soutiens par rapport, par exemple, à Staline. C'est ni Staline, ni Mussolini. Ça n'a pas d'importance. C'est le peuple que je soutiens. Et même jusqu'à la fin de sa vie, il n'a jamais regretté d'avoir
soutenu
ses rapports. Il dit jamais que c'est pas soutenu, mais c'est ses rapports avec Staline.
Si, il est lucide sur l'URSS, même s'il est, disons, complaisant ou très amical. En revanche, là où il a une vraie lucidité, c'est sur l'Allemagne nazie.
Exactement.
Et notamment son attitude d'un moment de Munich est extrêmement claire.
Exactement. Et ça, il faut vraiment le noter, parce que ce n'est pas si courant. Parmi les intellectuels français, même des grandes figures de gauche, songeons à Léon Blum, par exemple, qui a, face à la montée du fascisme, Blum vous dit, écoutez, les nazis se calmeront, c'est un peu comme le boulangisme. Et là, on voit bien que chez Romain Rolland, il voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe qui est radicalement nouveau et auquel il faut faire face avec des outils nouveaux. Alors, oui, sans doute, on peut le mettre en procès par rapport à certaines complaisances avec le communisme, c'est évident. Mais l'un dans l'autre, je trouve qu'il a plutôt, sur le sujet, écrit moins de bêtises que bien d'autres.
Et il ne confond pas communisme et nazisme.
Donc, oui, on était en train de parler de Munich, de l'attitude à l'égard de Munich. Effectivement, quand on prend à peu près à la même époque le texte de Giono...
Refus d'obéissance.
Refus d'obéissance.
Et le texte, je ne peux pas oublier.
Et qui, alors, pour le coup, comme chez Alain, est un plaidoyer extrêmement violent, pour le coup, contre la guerre, toute forme de guerre. Et que ce soit Alain ou quelqu'un comme Giono, vont reprocher amèrement à Romain Rolland son attitude au moment de Munich, me semble-t-il. Galitadad, je ne sais plus.
Il n'est plus pacifiste intégral à ce moment-là, si tant est qu'il l'ait été, Galitadad.
Et... Oui, il a passé vraiment une évolution. Ce n'est pas du tout Romain Rolland, l'idéaliste qui rêve d'une telle ou telle Europe unie, fraternelle. C'est pas ça. Là, c'est vrai. Même s'il dit je suis loin de la politique, là, c'est vrai qu'il prend une position assez nette. Pacifisme, c'est un discours. Un discours, c'est un acte, quoi qu'il en soit. Et je pense que là, oui, on peut dire que ce n'est plus le discours de pacifisme intégral. Mais c'est pas uniquement, ce n'est pas uniquement lui. Il y avait Einstein, il y avait Bertrand Russell. Ils ont pris aussi cette décision que le pacifisme, parfois, ça dépend dans quelles circonstances. Selon les circonstances, le pacifisme doit être flexible. Par exemple, ces deux personnes que j'ai mentionnées tout à l'heure, ils ont contesté contre la Grande Guerre. Pendant les années entre les deux guerres, il était actif contre la guerre, contre la politique de la conscription. Mais pendant les années 30, là, ils ont vu qu'il y a quelque chose de différent. Là, c'est légitime.
Il est légitime de s'armer pour combattre le nazisme. C'est ça la question qui est à ce moment-là posée et qui va différencier justement ces pacifistes intégraux dont malheureusement certains iront jusqu'à la collaboration, Christophe Levachon.
Bien sûr, et on a souvent une image de Romain Rolland parce qu'on ne lit pas assez ce texte et parce qu'on n'étudie pas assez sa pensée, la complexité de sa pensée, comme d'un pacifiste. On dit souvent Romain Rolland, au fond c'est un pacifiste tolstoïen et puis on a l'impression que l'affaire est à peu près réglé. En réalité, c'est un homme qui observe l'histoire. N'oublions pas que c'est un historien de formation. Hein.
Germaniste.
Et germaniste, oui. Absolument. Mmh. Et avec ce rapport affectueux à l'Allemagne, à la culture allemande, si vous préférez. On voit bien que selon les circonstances, donc, il comprend que pour défendre la paix, parfois, comme selon la formule, il faut savoir faire la guerre. Et ce n'est pas du tout un pacifisme bellan, comme on dit, qui désarme, encore une fois, ce pacifisme, quoi qu'il en coûte. Non, il sait devenir au moment où il faut le devenir, en tout cas antifasciste, et être antifasciste, eh bien c'est prendre les armes contre les fascistes.
C'est pas Louis Lecoing.
Ce n'est pas Louis Lecoing, ce n'est pas Alain, ce n'est pas Michel Alexandre, ce n'est pas même tout ce socialisme pacifiste qui était à l'intérieur de la SFIO hein, et qui a défendu bec et ongle une attitude pacifiste. Mais en même temps, j'y reviens, ce n'est pas un communiste qui défend les intérêts de l'Union soviétique. Hein. C'est quelqu'un qui croit profondément en la paix, en l'international, en l'esprit, hein, et pas seulement de l'Europe. D'ailleurs, dans le texte, c'est un élément qu'on n'a pas encore évoqué, mais dans l'affliction qui est la sienne, il dit « Regardez cette Europe qui, pour se combattre elle-même, fait appel aux barbares ». Ouais. Je crois qu'il a presque la formule, enfin, il n'utilise peut-être pas le mot barbare, mais c'est-à-dire les peuples venus d'Asie, d'Afrique, et qui combattent. Et il se justifiera ultérieurement en disant, écoutez, parce qu'évidemment les nationalistes ont sauté dessus en disant, regardez en plus la façon dont il parle des autres peuples.
Oui, parce qu'en même temps, il est anticolonialiste.
Hein, et voilà, et en fait, dans l'entre-deux-guerres, même très vite d'ailleurs, en disant, écoutez, moi je suis quelqu'un qui est passionné par la culture indienne, on ne peut pas faire ce procès-là. Donc c'est vraiment cette question-là qui le hante, c'est la paix du monde, mais il faut se donner les moyens. La paix du monde et pas seulement l'Europe, il faut se donner les moyens de la défendre.
Le pacifisme, Romain Rolland meurt à la fin de l'année 44, dans le silence d'ailleurs pendant la guerre. Il ne prend plus position publiquement à ce moment-là. Il est retiré dans sa maison de Vézelay. Le pacifisme ne va pas disparaître après-guerre. Loin de là. Alors, ce sont des courants très, très puissants. Hein. L'appel de Stockholm, des millions de signatures. Tout ça, actionné par le mouvement communiste international, jusqu'à la guerre en Ukraine actuelle. Et qui, voilà, en passant par les guerres d'Irak, les guerres du Vietnam. Est-ce que à vos yeux, ces mouvements sont comme un écho, même assourdi ou lointain, de ce texte inaugural qui était au-dessus de la mêlée.
Galit Haddad.
Le pacifisme évolue toujours selon les circonstances. On peut dire, bon, le pacifisme, c'est le refus de guerre, d'une manière générale, mais c'est clair que les deux conflits mondiaux, ils ont montré que le pacifisme tout seul, ce n'est pas pertinent. Quels sont les moyens pour garder la paix? Quels sont les moyens pour construire la paix? Et ça, c'est la première chose. Mais deuxième chose, contrairement à la Première Guerre mondiale, dans les autres conflits, le sol n'a pas été menacé. Et c'est complètement différent lorsque la patrie est menacée Et lorsque, dans les conflits ultérieurs, où le pacifisme, c'est une opinion contre...
Oui, on ne défend pas sa terre, mais on est contre la guerre extérieure, mais... Je crois que Gérard Courtois...
En quelques mots, Christophe Prochasson, sur cette espèce de trace qu'éventuellement, mais en quelques mots, parce qu'on arrive au terme de cette émission.
Force est de constater que la mémoire de Romain Rolland s'est vite effacée, sans doute aussi parce que, d'une part, elle a été absorbée par le Parti communiste, la mémoire communiste, etc. Et aussi parce que, heureusement, la guerre en Europe a cessé. Elle est d'une certaine façon, enfin cette fin de guerre ou des guerres a périmé le propos de Romain Rolland. Mais un retour sur ces textes-là montre qu'on pourrait y retrouver une certaine flamme, une certaine enthousiasme, un certain courage aussi de s'élever contre l'écrasante majorité qui pense inéluctable un certain nombre de faits. Donc c'est une leçon de morale, je pense, qui pourrait aujourd'hui retrouver une certaine flamme.
Deux fois, il n'a pas été compris. En 1914 et en 1936-38.
Merci Galit Haddad, merci Christophe Prochasson. Gérard Courtois, on arrive au terme de cette émission. Quelques mots de conclusion peut-être?
Oui, on a dit beaucoup de choses. Romain Rolland a à l'évidence laissé une trace profonde dans la France et l'Europe de l'entre-deux-guerres, autant qu'Aristide Briand, par exemple, sur le terrain diplomatique. Et il aura fait du pacifisme une des grandes causes intellectuelles de ces années-là. Mais on vient de le voir, enfin on l'a évoqué à la fin de l'émission, son parcours témoigne aussi des limites de cet engagement, parce qu'il était... une sensibilité plus qu'une doctrine, parce qu'il était un idéalisme plus qu'une politique. Le pacifisme a été, au fond, la victime dans les années 30 du grand jeu européen qui a conduit au second conflit mondial. Donc, voilà, c'est comme, au fond, une ruse de l'histoire. Le courage et la lucidité singulière de Romain Rolland en 1914, se retournant en quelque sorte 20 ans plus tard, en une forme d'aveuglement chez beaucoup et d'impuissance, en tout cas, chez l'auteur de Au-dessus de la mêlée. Merci à vous, en tout cas, Galit Haddad et Christophe Prochasson.
France Culture, les manifestes qui ont changé le monde. À retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
C'était Les manifestes qui ont changé le monde, une émission de Gérard Courtois et Didier Lesky. Préparation CM Boutata, prise de son Valérie Lavalard, réalisation Guillaume Baldi. Demain, le manifeste du Baos.